Et nous continuons nos méditations dans le début de l'évangile de Marc. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Et ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça : Tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en s'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Et tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt sur tous les lieux environnants de la Galilée. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors, ce passage suit le passage précédent, ça va de soi. Hein ? Et pour bien le comprendre, il faut voir la logique de tout ce qui est dit depuis le début de cet évangile selon Marc. Ce passage suit les versets 1 à 20 du chapitre 1. Et ces versets 1 à 20 du chapitre 1, on peut appeler ça l'introduction à Marc. Donc jusqu'à présent, quand on a commenté l'évangile de Marc, depuis quelques semaines, on a commenté l'introduction. Et donc c'était l'introduction. Et dans cette introduction, Marc avait présenté 5 preuves que Jésus est vraiment le roi divin, le roi de Dieu, le roi envoyé par Dieu, le roi venu dans ce monde. Première preuve, c'était que Jésus est d'abord précédé d'un précurseur royal. Tout roi qui s'annonce est annoncé donc par un précurseur. 2 à 8. Jésus a été couronné au cours d'une cérémonie divine, on va dire. C'était son baptême avec l'esprit et la colombe. Jésus a vaincu son ennemi juré, le prince des ténèbres, Satan. C'était les versets 12 à 13. Et Jésus a proclamé le message royal du salut, le royaume de Dieu est arrivé, versets 14-15. Et Jésus ordonne à ses sujets de le suivre. C'est ce qu'il avait fait avec les 4 premiers apôtres, et c'était le symbole de tous ceux qu'il appelle à le suivre, à renoncer à eux-mêmes et à le suivre et à porter leur croix, versets 16 à 20. Donc, le Seigneur a commencé son ministère public, commence maintenant son ministère public, muni de toutes les accréditations nécessaires, comme on dit aujourd'hui. Il est annoncé par Jean-Baptiste, il est mandaté par le Père et par le Saint-Esprit. Il est victorieux du péché et de Satan, et il est maintenant accompagné de ses premiers disciples. Et donc, après l'introduction un peu rapide, 1 à 20, où Marc a mis beaucoup de choses en peu de versets, on entre maintenant dans le vif du sujet. Et Marc va insister plus longuement sur les grands événements du ministère du roi. Et la première chose sur laquelle il va insister, ce sera ce passage. Dans ce passage, il illustre de façon spectaculaire l'autorité. Il va insister sur l'autorité souveraine de Jésus-Christ. Et donc, c'est cette autorité du roi qu'il va mettre en avant dans ce premier miracle, qui n'est pas là par hasard. Donc, Jésus enseigne avec autorité. C'est l'autorité de l'enseignement de Jésus, puis l'autorité du discernement de Jésus, l'autorité du pouvoir de Jésus. Alors, il est d'abord parlé de l'autorité de l'enseignement de Jésus. Il est dit qu'il enseignait avec autorité. Et son enseignement est mis en avant, la parole de Dieu qui est annoncée à chacun. Nous sommes ici en présence du premier miracle de guérison mentionnée dans l'évangile de Marc, et ce n'est pas le moindre, bien sûr. Et on commence fort puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une délivrance opérée dans la synagogue le jour du sabbat, le jour consacré à Dieu. Voilà qui permet à Jésus de sortir donc de l'anonymat de façon spectaculaire aux yeux de tous. Alors Marc nous donne deux informations. Premièrement, tout se passe dans la synagogue. Alors ça, c'est un détail sur lequel on va revenir plusieurs fois. Tout se passe dans une synagogue. Un samedi, jour de l'office principal, durant l'office du sabbat. Donc. Alors nous savons comment se passait l'office, ce type d'office, c'est pas très différent d'un culte. Lecture d'un texte de la loi et des prophètes, d'un texte de l'Ancien Testament, on va dire. Puis instruction de la part d'un adulte volontaire, sous le regard vigilant, des scribes et des rabbins installés au premier rang. Alors, il y avait deux caractéristiques à ce culte. Il y avait de la spontanéité, mais une spontanéité contrôlée. Et il y avait aussi la pression donc, des anciens qui veillent et qui discernent, qui jugent. Alors, il y a ça. Mais un deuxième élément important, c'est que donc Jésus apporte un enseignement avec autorité. Et dans ce contexte, Jésus apporte un enseignement avec autorité. Les gens étaient frappés de sa doctrine, est-il dit. Le message de Jésus est tellement captivant, il est tellement puissant que ses auditeurs sont comme figés dans le silence. Un silence, on entendrait une mouche voler. Ils sont comme suspendus à la moindre de ses paroles, à toutes ses paroles. Et Marc n'apporte aucun détail sur cet enseignement. Dans l'évangile de Matthieu, il y a le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Luc également. Marc n'apporte aucun détail sur cet enseignement, mais il insiste pour dire l'originalité et l'autorité de cet enseignement. On peut penser que c'était effectivement un enseignement similaire au sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6, 7, où Jésus apporte toutes sortes de sujets. Et on a une petite preuve de ce que je viens d'énoncer, c'est que le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, se termine de la même façon qu'ici. Matthieu 7, 29 dit « Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Comme ce qui est dit ici. Donc Jésus apporte un enseignement profond, varié. Les enseignements des maîtres religieux de l'époque reposaient surtout sur la tradition et reposaient sur des interprétations qui limitaient le sens des textes dans le sens de ce que les scribes voulaient lui faire dire. Tout cela était accompagné d'élucubrations compliquées, d'allégories, de symbolismes fantasques, d'idées obscures et de longues citations des scribes d'autrefois, des maîtres d'autrefois, on va dire. Alors Jésus innove. Il fait exploser la chape sous laquelle le peuple est maintenu par ses maîtres. Et il manifeste une autorité nouvelle, une autorité élargie. Son enseignement se centre sur le texte des Écritures. On le voit dans le sermon sur la montagne. Jésus explique fidèlement le sens de l'Écriture. Il ne cherche pas toutes sortes de choses compliquées et obscures. Il explique le sens de l'Écriture fidèlement, avec vérité. Son enseignement est logique, concret. Ses arguments sont clairs et se concentrent sur les questions essentielles, essentielles de la vie. Et donc Jésus proclame la vérité de Dieu avec la confiance inébranlable d'un roi divin, du roi divin. Et le terme autorité est très fort et il correspond au pouvoir souverain dont parle Daniel, en Daniel 7, 13, 14. Daniel parle du Messie sous les termes d'un roi divin. Et il y a dans le texte des Septante, il y a le même mot, autorité. Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un être humain, un fils d'homme. Jésus va reprendre cette expression. Il s'avança vers le vieillard et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, l'autorité, l'honneur et la royauté. Tous les peuples et les nations et toutes les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Et donc, cette autorité de Jésus est tout autre que l'autorité des hommes, car il l'a reçue de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, il a reçu cette autorité de Dieu étant Dieu. Et son message est imprégné de l'autorité même de Dieu. Et donc, dans le récit de Marc, Jésus va manifester son autorité de plusieurs façons. Il va manifester cette autorité, sa domination, sa suprématie, entre autres, premièrement, sur un esprit impur. C'est là qu'on voit que ce premier miracle n'est pas arrivé par hasard. Il arrive pour appuyer, pour faire comprendre le message, la parole de Dieu, ce que Jésus est, ce que Jésus annonce. Donc l'évangile commence par la confrontation avec un esprit impur. C'est un combat entre des puissances surnaturelles, celles d'en haut, celles d'en bas. Et il faut ici du recul pour saisir le sens de l'épisode. Alors pour bien saisir le sens de l'épisode, on va d'abord voir la démarche du démon qui met en avant l'autorité du discernement de Jésus et ensuite l'autorité du pouvoir de Jésus. Donc tout d'abord la démarche du démon. Le démon, les démons en général, savent que Jésus est l'envoyé de Dieu. Point. Les démons ne sont pas préoccupés par leur propre sort, avant tout. Mais ils cherchent avant tout à quoi ? Ils cherchent à faire du mal. Ils cherchent à nuire à Jésus, à faire du mal à tout prix, même au détriment de leur propre sort. Peu importe, ils cherchent à faire du mal. Et dans ce cas, ils cherchent à nuire à Jésus en le discréditant auprès des foules. Les foules ont acclamé Jésus, ils sont ébahis par son enseignement. Et c'est dans ce contexte qu'intervient ce démon. Le démoniaque de Capernaum n'est pas identifié d'emblée parmi les hommes de l'assemblée qui se trouvent dans cette synagogue ce sabbat-là. Car il est possédé d'un esprit impur, mais personne ne le sait. Son comportement était certainement très différent. C'est un homme calme, qui n'avait jamais fait parler de lui jusqu'à présent. Son comportement était très différent de celui du démoniaque de Gadara, dont on parle au chapitre 5, dont on parlera au chapitre 5, qui lui était nu, qui se jetait dans le feu, qui était fou, etc. Ici, non. C'est un homme normal. Un homme normal. Le démoniaque de Capernaum se trouve dans la synagogue. Il assiste au sabbat, normalement. Il chante, il fait, voilà. Son comportement devait donc paraître normal aux Juifs. Ce n'est qu'à la suite de la délivrance de Jésus que l'esprit impur est identifié comme tel par la foule, seulement après. Alors imaginez cet homme tout à fait normal qui tout d'un coup crie, tu es venu pour nous perdre. Alors là, il y a de quoi retourner la foule. Si quelqu'un, comme vous, dit quelque chose, vous avez tendance à dire « Ah, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, finalement. » Parce qu'on n'aperçoit pas l'origine du problème. Et on est très vite médusé, on peut très vite être pris par ce discours. Les foules, on le sait, se retournent comme une crêpe. Ça se retourne comme une crêpe. Donc, c'était très habile de la part des démons d'agir ainsi. Et donc, l'assistance, ça veut dire que l'assistance interprète les paroles du démoniaque adressées à Jésus comme étant les paroles d'un homme et non d'un homme normal, et non comme celles d'un démon. Et quand les démons ont donc dit « Tu es venu pour nous perdre », le démon accuse Jésus par l'intermédiaire de cet homme normal, sous couvert de cet homme normal. Il l'accuse de perdre, vous voyez l'accusation, de perdre le peuple. Le ton est agressif, le ton est contestataire. Alors, le titre « Jésus de Nazareth » ne doit pas nous tromper. Il prononce le nom « Jésus de Nazareth », ça n'a rien d'élogieux. Pour nous, c'est un petit peu élogieux. Enfin, on est chrétien, Jésus de Nazareth, c'est quelque chose de positif comme appellation. Il y a même des chrétiens qui s'appellent les Nazaréens. Hein. Mais le titre Jésus de Nazareth n'a rien d'élogieux à l'époque. Jésus de Nazareth, dans la bouche du démon, ça veut dire à peu près Jésus de rien du tout. Ça veut dire ça. Jésus de rien du tout. Qu'est-ce que t'es venu ? T'es venu pour nous perdre. Tu es un rien du tout. Voilà ce qui commence. Alors la suite, c'est pareil. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alors on va dire, tiens, ça c'est une éloge. Non, 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 non. Le démon présente Jésus comme un être super spirituel. Vous voyez la suite ? Comme un être super spirituel qui vit dans les nuages, dans un monde irréel. Et il en est, et donc c'est un être irresponsable. En tant que chrétien, vous avez peut-être entendu ce genre d'injure qui vous a été adressé un jour ou l'autre. Hein. Ouais, toi, t'es un saint, tu comprends rien, t'es au-dessus, t'es dans les nuages, t'es dans ton petit monde, hein, etc. C'est un peu ça qu'on dit de Jésus à ce moment-là. Qu'y a-t-il entre nous et toi ? Donc, il indique qu'il n'y a aucun rapport entre la réalité du monde, c'est un homme qui parle, hein. C'est un démon, mais c'est un homme qui parle. Hein. Et donc, les gens croient que c'est un homme qui parle. Et donc, il indique qu'il n'y a aucun rapport entre la réalité du monde et le monde utopique de Jésus. Hein. Donc, c'était un discours fomenté par les démons pour essayer de briser l'admiration que beaucoup ressentaient en entendant Jésus. Et on l'a vu au verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine. Les démons essayent de renverser ça. En se cachant hein, et en voulant faire du mal, hein, du mal, du mal. Et donc Jésus, bien sûr, les gens ne discernent rien, mais Jésus discerne tout. Hein. Et c'est là qu'il montre son autorité, dès le début de son ministère. Et il va montrer maintenant son autorité et l'autorité de son pouvoir. Jésus le menaça. Hein. Alors Jésus le menace en tant que roi divin. Hein. Il a autorité, hein, déjà. Hein, le royaume est arrivé. Hein. Ce n'est pas un combat incertain avec les démons. Non, non, il est roi. Il a toute autorité. Hein. Le roi est là. Il a été oint par Dieu. Il règne déjà. Jésus règne. Hein. Et donc, c'est en tant que régnant, roi divin régnant, qu'il a, et c'est de par son autorité inhérente, hein, qu'il peut maintenant commander cet ange déchu. Et point n'est besoin de dialogue, hein, non. Il n'y a pas besoin de négociation, il n'y a pas besoin de lutte. Hein. C'est pour ça que, voilà, quand on parle de lutte avec les démons, entre Jésus et démons, c'est toujours, c'est mal, c'est inapproprié. Hein. Parce que Jésus règne et il a toute autorité, il n'y a pas besoin de lutte. Jésus, n'y a pas besoin de dialogue, de négociation, de lutte. Parmi les Juifs contemporains du Nouveau Testament, il y a des délivrances, soi-disant, qui s'accompagnaient. Il y avait des délivrances qui accompagnaient souvent, qui s'accompagnaient de formules, de rites, mais qui étaient rarement suivies des faits. On voit ça dans le livre des Actes. Le taux de réussite de Jésus, lui, est total, total. Hein? Jamais Jésus ne connaît le moindre échec dans l'expulsion des démons qu'il rencontre, hein? Ni le moindre problème de discernement non plus. Et jamais il ne se sert de formules spéciales. Ou de rites particuliers. Il suffit de donner un ordre et la chose s'exécute. Les démons, c'est vrai en tout, mais en ça aussi, les démons obéissent. Alors Jésus dit, tais-toi et sors de cet homme. Jésus ne permet pas aux démons de le discréditer auprès des hommes. Si les hommes doivent le discréditer, et il y a des hommes qui vont le discréditer, ce sera par un choix personnel. Dieu veut qu'on fasse des choix personnels. Et ce sera par un choix personnel dont ils seront entièrement responsables. Ils ne pourront pas dire plus tard qu'ils ont été simplement manipulés par les démons. Voyez, Dieu ne veut pas hein, qu'on le discrédite auprès des hommes pour qu'il veut qu'on puisse faire un choix, hein, personnel hein, qui nous appartienne en propre. Hein. Et c'est pour ça qu'il veut donc que ces démons qui parlent ainsi sous le couvert de cet homme soient démasqués et que les gens puissent faire un choix, oui ou non, face à ce qu'il est, à ce qu'il dit dans cette synagogue. Et le démon sort de cet homme à regret. Hein, il est obligé, forcément. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, en poussant un grand cri. Alors, le premier miracle atteste que l'ennemi spirituel et de Jésus, hein, est le premier à agir, à attaquer, hein, mais qu'il a été immédiatement réduit au silence. Et au lieu de discréditer Jésus, ça c'est important, son action a été utilisée par le Seigneur pour glorifier Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, fils de Dieu. On voit au verset 27 que je relis, « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée, hein, toutes ces régions qui entouraient la Galilée. » Alors tout ça c'est bien et bon, bel et bon, mais quel enseignement ça peut avoir pour nous aujourd'hui ? Quel est l'enseignement pour nous ? Alors bien sûr, premier enseignement qui est clair, hein, ça nous apprend, hein, que même le monde invisible donc reconnaît que Jésus est le Messie, hein, qu'il est l'envoyé de Dieu, et donc que Jésus-Christ est bien le vrai Messie de Dieu, plein d'autorité. Bon, ça paraît basique. C'est vrai, ça reste toujours valable. Mais quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Alors, il faut d'abord relever deux choses. D'abord, il faut relever ce que j'ai commencé à relever tout à l'heure, que Jésus commence son ministère par une synagogue. Il commence son ministère en purifiant un lieu de culte et un jour de culte. Il commence son ministère en purifiant un lieu de culte, le jour du culte. Et ce n'est pas anodin. Jésus vient manifester son autorité au cœur du sabbat, hein, donc le temps de Dieu, le jour de Dieu, et au cœur de la synagogue, lieu de tradition bien inscrit dans la foi et dans l'action. Jésus vient manifester son autorité en y maîtrisant les forces du mal. Mais ce qui me surprend, c'est que dans la synagogue même, et donc dans l'assemblée des croyants réunis pour vivre le sabbat, et écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire dans un temps d'adoration, de prière, d'écoute, on trouve un homme possédé de l'esprit du mal. Alors l'assemblée des croyants est constituée de gens divers, hein, et qui peuvent demeurer plus ou moins secrètement sous l'emprise du mal, bien sûr. Alors je ne dis pas qu'il y a dans les assemblées, hein, des gens possédés, je dis que nous avons tous nos fragilités, et c'est sur ce point-là que je voudrais insister. Nous avons tous, en tant que chrétiens, nos fragilités, nos bobos, nos maladies plus ou moins visibles, plus ou moins honteuses. Et je rappelle que l'Église est constituée de pécheurs repentants, c'est vrai, en voie de sanctification, mais quand même de pécheurs. Donc il n'y a rien de quoi nous étonner. Nous avons tous nos fragilités, nos bobos, nos maladies plus ou moins visibles. Et Jésus commence son ministère dans la synagogue parce qu'il veut manifester son autorité. Il veut que son autorité soit premièrement reconnue là où se réunissent les croyants. Il veut que son autorité soit évidente, on va dire aujourd'hui, dans son Église. Et ce n'est pas une chose indiscutable, hein, que cela, hein. Même dans l'Église. Aussi indiscutable que ça, même dans l'Église. Il suffit d'entendre aujourd'hui des gens qui ne reconnaissent pas dans certaines églises dites chrétiennes de l'autorité de Jésus, l'autorité de sa parole. Et l'autorité du Christ est largement contestée par ceux-là même qui devraient la confesser. Et si l'Église ne confesse pas l'autorité du Christ, elle n'a plus aucune raison d'annoncer la bonne nouvelle. Mais même quand on annonce la bonne nouvelle, nous savons que nous avons nos bobos, nos fragilités. Et personnellement, dans nos vies, le Seigneur veut donc, c'est à nous qu'il s'adresse, c'est à des gens qui ont des bobos, des fragilités, des maladies plus ou moins visibles. Et Jésus peut commander à nos vies. Il peut nous visiter. Il peut nous adresser une parole d'autorité qui va nous remettre en route. Et il le fait hier comme aujourd'hui. À l'image de l'homme possédé, c'est un exemple, nous avons besoin, nous aussi, d'une parole de Jésus qui va s'adresser à nous avec autorité. et qui va nous remettre debout, quelle que soit notre situation. Par sa parole d'autorité, Jésus-Christ nous aide à retrouver le bon chemin quand nous l'avons perdu. Et en tant que chrétiens, nous pouvons perdre parfois le bon chemin, où ça devient plus flou, où nous pouvons nous laisser aller sur le chemin, et voilà, divaguer un petit peu sur les bords. Il peut nous aider, sa parole d'autorité peut nous aider à espérer malgré notre désespoir, et on l'a dit dans la première partie. En tant que chrétiens, les situations de la vie peuvent nous plonger dans le désespoir, ou en tout cas nous mettre, nous laisser attirer par le désespoir. Vous voyez, c'est une tendance dans nos vies parfois. Et la parole d'autorité de Jésus peut nous remettre debout pour nous inviter à espérer malgré notre désespoir. Et puis, la parole d'autorité de Jésus peut nous aider à avancer malgré nos difficultés. Le Seigneur n'enlève pas les difficultés de la vie, toujours, on le sait bien. Ce serait un mensonge de dire le contraire. Mais sa parole d'autorité, et il a toujours la même autorité, sa parole d'autorité peut nous aider à avancer malgré nos difficultés, à remettre en ordre ce qui n'est plus en ordre, à rendre clair ce qui est confus. Et ça, le Seigneur peut le faire aujourd'hui dans nos vies. Son autorité en bref, son autorité en parole, mais aussi en acte, peut nous donner sa paix. Jésus-Christ, par son autorité, peut nous donner sa paix, afin que nous soyons en paix en nous-mêmes. Et soyons en paix avec Dieu, mais soyons en paix avec les autres. Donc, si nous avons parfois du mal avec nous-mêmes, ou avec le péché, ou avec le mal, parce que le péché, le mal, la mort demeurent en nous, laissons le Christ intervenir dans nos vies avec autorité et donner l'ordre à ce qui nous empoisonne et qui finalement nous sépare de lui, même dans la synagogue, même dans l'église, et dire « Silence, sors de cet homme, n'entrave plus cet homme qui m'appartient, cette femme qui m'appartient. » Alors nos efforts sont limités, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, agit lui avec autorité. Croyons en cette autorité. Plaçons-nous sous cette autorité. Jésus est vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. L'autorité divine lui appartient. Il a toute autorité. Amen.